Je voudrais ce matin prendre avec vous un texte. Alors, ce texte est un peu particulier. Enfin, c'est un texte de la Bible. Hein. Mais pour moi, je me suis rendu compte d'une petite chose. Alors, je vais d'abord lire le texte et puis j'introduirai le texte dans la suite. Il se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, les versets 6 à 17. C'est la dimension de Pierre qui est délivré de la prison. Je lis le texte dans la traduction, la nouvelle traduction en français courant. Tout d'abord, Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de deux chaînes, était endormi entre deux soldats, tandis que, devant la porte, les sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture, attache tes sandales !» Il le fit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement et suis-moi !» Il sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange s'éloigna de lui. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce qui attendait qu'attendait le peuple juif. » Quand il eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, au bon nombre de gens étaient, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là à la porte d'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il était bien ainsi. Eux disaient « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper et ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur racontèrent comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison, et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Un texte particulier. Si je vous demandais maintenant de quoi parle ce texte, qu'est-ce que vous avez retenu de ma lecture? Excusez-moi, je ne lis pas fort bien, mais il y avait tellement de choses qui traversaient ma tête que j'avais du mal. Mais De quoi parle le texte ? Dites-moi. De ? Pourquoi dites-vous ça ? Ah oui, ça, ils ne croyaient pas, effectivement. Ouais. Que ? La puissance de la prière. Oui. Mais encore, vous avez autre chose ? Qu'est-ce qui vous a parlé ? L'action de Dieu pour libérer son serviteur. Oui ? Les chaînes, les portes, les chaînes qui tombent, les portes qui s'ouvrent, oui. L'intervention de l'ange, oui. Que Pierre doute. Attends, Philippe, il doute de quoi ? Il ? Là, je ne te suivrai pas. Mais on s'expliquera. Autre chose ? En tout cas, je peux vous dire que à peu près tout ce que vous avez dit, tout est juste, hein ? Tout est juste. La seule chose, c'est que je vais vous inviter à entrer dans ma réflexion, et vous direz si c'est une réflexion qui est selon le Seigneur, après. Mais je vais vous inviter à entrer dans une autre réflexion. Dans tout ce que vous avez dit, vous allez vous retrouver, mais avec quelque chose de différent. Pierre est privé de liberté pour la deuxième fois. Car en fait compte, il y a une première fois qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 5, versets 17 et 18, nous dit « Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les membres du parti des Sadducéens, furent remplis de jalousie à l'égard des apôtres. Ils décidèrent d'agir et ils les firent, Pierre et Jean, arrêtés et jetés dans la prison publique. » En acte 12, le verset 1, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais je crois qu'il est important que l'on le lise. À cette époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, et quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre durant la fête des pains sans levain. C'est la deuxième fois que Pierre est arrêté. La première, il avait été relâché quasiment aussitôt. La deuxième, ce n'est pas vrai. Quand on relit 12, 1 à 3, comme je l'ai lu, il y a des choses qui nous heurtent et qui nous posent problème. Hérode, il faut savoir que ce n'est pas le même Hérode qu'au temps de Jésus. C'est le neveu qui a succédé à l'oncle décédé. il y a une chose, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, et sur cela, nous avons parlé tout à l'heure de la libération de Pierre. Et on peut s'arrêter sur une chose déjà. Pourquoi Jacques, qui est le frère de Jean, qui est un des apôtres, lui meurt sous les coups de l'épée et Pierre est délivré? Là, c'est une grande question, et c'est une question qui se pose et qui peut se poser encore à moi aujourd'hui. Pourquoi moi, je suis en vie, et pourquoi tel ou tel ne l'est plus? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Et ce texte, il est très simple. Il dit, Jacques, oui, il est tombé sous les coups d'Hérode. Pierre, pas. Dieu va intervenir pour lui. Il y a une chose qui pourrait nous poser problème. Quand Hérode vit que cela plaisait aux Juifs, et on peut se poser la question, attends, qu'est-ce qui plaît aux Juifs? Eh bien, il faut tout simplement se rendre compte que nous sommes déjà au chapitre 12 du livre des Actes et que la croissance de l'Église chrétienne pose problème aux autorités juives et au Sanhédrin. Et comme beaucoup de politiciens, on cherche toujours à plaire à certains pour garder une autorité et un pouvoir. Il fit arrêter Pierre durant la fête des pains sans levain. Et je voudrais quelque part me poser des questions. Il fit arrêter Pierre durant la fête des pains sans levain. C'est quelle fête, les pains sans levain ? C'est une fête qui est un peu difficile à trouver, à déterminer, mais en tout cas, on peut l'associer à... On ne peut pas fêter la Pâque sans avoir éliminé le levain de la maison, et donc les pains sans levain. Donc on est quelque part... dans la fête des pains sans levain, donc disons grosso modo, on est dans la préparatif de la fête de Pessah. Si vous voulez chercher, vous pourrez trouver en Exode chapitre 12, les versets 1 à 20, etc., etc. Je ne les lis pas. Donc, il y a, et c'est ça qui m'intéresse, la fête de Pessah, c'est quoi? C'est le souvenir, le mémorial de la sortie d'Égypte. C'est le moment où Dieu libère son peuple. Et je voudrais mettre en rapport la libération de Pierre avec, en fin de compte, le contexte dans lequel ça se joue, la libération du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, et ce que cela engendre dans notre pensée. Je voudrais aussi dire qu'en fait compte, Hérode, eh ben, il se comporte comme un autre pharaon. Donc c'est une figure emblématique de Satan. Dieu nous appelle à la prière. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu avec ferveur. Il était gardé par 16 gardes, 4 fois 4. Relisez le texte. Et en fait, il y a une prière qui est faite avec ferveur. Ekténos. On peut traduire ferveur avec ardeur, avec vraiment intensément, quelque chose d'extraordinaire. Le mot ekténos, on retrouve dans la Bible la Septante. Voilà, la Septuagintia. Donc, vous savez ce que c'est que la Septuagintia, j'arriverai à le dire. La Septante, c'est la traduction de l'Ancien Testament, le texte hébreu et araméen, en grec. C'est une traduction qui, grosso modo, a été faite aux environs de 150 ans avant Jésus-Christ. Et dans cette traduction, dans le livre de Joël, au chapitre 1 et au verset 14, il est dit « Consacrez un jeûne, proclamez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, à la maison du Seigneur, votre Dieu, et criez vers le Seigneur. » Donc, la prière de l'Église, qui prie pour Pierre avec ferveur, intensément, ardemment, et de cet ordre-là, ce n'est pas une prière murmurée, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de fort. Est-ce que c'est le fait de l'élévation de notre voix qui dit aussi que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on est dans cette dimension-là et une dimension qui est proche de celle où dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 44, il est dit que Jésus priait à Gethsémané. Alors, là, la ferveur de Jésus, de sa prière à Gethsémané, nul n'a osé reprendre le thème. Hein. Donc, il y a ferveur et ferveur. La ferveur de Jésus à Gethsémané est plus importante encore que celle de l'Église. Mais ekténos, c'est quasiment la même ferveur. Et j'aime encore faire le rapprochement de ce mot, de cette prière de Gethsémané qui va précéder, en fait compte, la croix. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de deux chaînes, était endormi entre deux soldats, tandis que devant la porte, les sentinelles gardaient la maison. Et de nouveau, il y a des détails. Quand vous lisez la parole, arrêtez-vous aux détails. N'allez pas en courant, car les détails sont importants. Et il y a un détail cette nuit-là. Et pour moi, c'est un détail extrêmement important, qui me conforte dans ma lecture. Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez me dire, il a été libéré. Certes, mais cette nuit-là, c'est autre chose encore. Et c'est quelque chose de encore plus grand. Cette nuit-là, moi, me fait référence à Pessah, la nuit où Dieu permit à son peuple de sortir de l'Égypte. Devant la porte, comme la pierre devant le tombeau, il y a des gardes devant la porte de la prison, comme au jour de Pâques, il y avait la pierre qui était devant le tombeau. Lui aussi, le tombeau était gardé. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture, attache tes sandales !» Il le fit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement et suis-moi. » Irruption de l'ange au sein même de la prison. Irruption accompagnée d'une lumière. Et en général, quand il y a cette lumière, dans les ténèbres, c'est la présence du Seigneur. Et puis il y a une chose qui est pour moi importante, c'est toute la dimension de hâte. Hâter. Il faut qu'il se dépêche. Il faut qu'il se hâte pour sortir. Lève-toi vite. La ceinture et les sandales. Eh bien, vous allez le retrouver dans, à nouveau, le récit pascal en Exode 12 et verset 11. Et on passe de ce récit de la libération d'Israël à Jésus. Car en fait, compte, vous avez deux verbes, réveilla et lève-toi. En fait, lorsque l'ange commande à Pierre de se réveiller et de se lever, en fait, on utilise les deux verbes de la résurrection. Ça, je vous ai déjà dit. Au temps de la résurrection, au moment de la résurrection de Jésus, il n'y a pas de mot approprié pour parler de résurrection. Donc, qu'est-ce que font les évangélistes? Eh ben, tout simplement, ils vont utiliser le fait de se lever, de se mettre debout et de se réveiller. Ce sont les verbes utilisés pour parler de la résurrection de Jésus. Et là, l'ange commande à Pierre de sortir de cet endormissement. En quelque sorte, il y a une espèce de résurrection. Bon, alors faisons le compte de tout ce que nous avons dit. Un contexte, les pains, c'est la fête des pains sans levain, c'est la fête de la Pâque, c'est la libération, la sortie d'Égypte, mais c'est aussi l'évocation de la passion du Christ, Christ mort pour nos péchés, Christ mis au tombeau, Christ ressuscité au dimanche de Pâques. La pierre est roulée, les portes s'ouvrent, les soldats n'ont rien vu. Il y a aussi la manifestation des anges. Pierre vit une sorte de résurrection. Dans la suite de notre texte, en Actes 12, versets 9 et 10, il sortit, le suivit, il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Je vais trop vite, là. Attendez, je suis... Ah, mince, oui, pardon. Je pousse sur le mauvais bouton. Donc, en fait, si on retourne un petit peu du côté de Pierre, Pierre a déjà eu une vision, hein, où quelque part l'ange lui a commandé d'aller chez Corneille, hein, et donc Pierre est déstabilisé, il entre dans cette dimension-là. La porte s'ouvre, le parallèle avec l'Exode rappelle que toutes les armées du monde ne peuvent rien contre la libération divine. Est-ce que nous sommes bien au clair sur ça? Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de qui peut faire tout et rien ne peut s'opposer à Dieu. Quand Dieu a décidé, les choses ne peuvent que d'aller dans le sens où il l'a dit. Revenu à lui, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, que tout ce qu'attendait le peuple juif, quand il eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Revenu vraiment à lui, il comprend. Il y a une expression belge, elle est en français, hein, mais elle est une expression belge qui dit « Il faut que le franc tombe. » Moi, je ne savais pas que c'était belge. Mais bon, c'est... paraît-il, c'est une expression belge. Il faut que les choses arrivent. Pierre n'a pas compris ce qui s'est passé. Pas plus que nous, d'ailleurs. Hein. Qui peut expliquer comment les chaînes sont tombées, comment les soldats ne l'ont pas vu, comment les grilles se sont ouvertes? Nul ne sait et nul ne peut l'expliquer rationnellement. Nous avons tous du mal à croire à de lourdes portes de fer qui s'ouvrent toutes seules. Et pourtant, c'est la réalité. Un jour, il y a pas mal d'années de ça, on me téléphone et on me dit que ma sœur aînée est en train de décéder, qu'il faudrait, pour bien faire, que si je veux encore la voir vivante, il me faudra me dépêcher. Nous habitons pâturage, ma sœur est hospitalisée à Liège, donc je bouscule ma femme, je la transporte dans la voiture et nous voilà partis. Il n'y a pas de radar dans la salle, non, ça va. Bref, je suis à la hauteur de Fleurus ce jour-là. Je suis pied au plancher, donc ma voiture, modestement, ne va pas au-delà de 180, donc je dois être à peu près à cette vitesse-là, à ce moment-là. Quand un camion qui est devant moi éclate un pneu, le camion se met en travers de l'autoroute, la remorque sur le flanc et tous les sacs de ciment éparpillés. J'arrive dans un nuage de poussière. Et on s'est regardé avec ma femme, après le nuage de poussière, ben on était de l'autre côté, on n'avait rien touché. Comment on est passé, alors que le camion est en travers sur l'autoroute? Comment a-t-on fait? Nous sommes retombés sur nos pattes en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, je ne peux dire qu'une seule chose, c'est merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Un de mes professeurs à la faculté de théologie, au temps où j'étudiais à Bruxelles, Élisée, tu as dû connaître Jean-Paul Gabu, hein, qui était prof de systématique, et nous a toujours confessé qu'un jour il était dans les Alpes et que à un moment donné il faisait de l'escalade, il a dévissé et il est tombé. Et puis dit-il, mais c'est son témoignage, c'est pas le mien, hein, c'est son témoignage, il dit, à un moment donné, je me suis senti porté, freiné, à tel point que, devant moi, j'ai vu une racine d'arbre et je me suis accroché à cette racine. Et dit Jean-Paul Gabu, en fait, je ne peux dire qu'une seule chose, c'est que le Seigneur a envoyé son ange, c'est lui qui a freiné ma chute, c'est lui qui a permis que je m'accroche à cette racine et que je sois sauvé. Frères et sœurs, on a peut-être du mal à croire et croire aux interventions de Dieu dans notre vie. Mais en fait, elles sont bien réelles. Quoique, il y ait des choses que l'on ne comprenne pas. Pourquoi Pierre, délivré, et pas Jacques ? Je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré. Dans le psaume 34, au verset 8, il nous est dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Au psaume 91, verset 3, un verset qui est pour moi significatif, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. » Thomasine, 2017, nous prenons l'avion, Anne-Marie, notre belle-fille Laetitia et moi, en direction de Madagascar. J'avais entendu, on était le mercredi, mais j'avais entendu le dimanche une petite nouvelle qui est passée comme du chat sur braise, sans faire beaucoup de vagues, et dont je m'étais absolument abstenu de dire et de communiquer que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, avait déclaré qu'il y avait une épidémie de peste à Madagascar. Et que le foyer de la peste à Madagascar était à Toamasina, c'est-à-dire Tamatave. Le voisin de siège de Laetitia, on était, je ne sais pas où, en vol, lui dit, mais est-ce que vous savez que il y a la peste à Madagascar. Laetitia, la peste. Elle se penche, me regarde. Comme tout le monde sait, un bon chrétien, on ne ment pas. Je dis oui. Ah bon ? Et il lui dit, et le foyer de la peste est à Tamatave. Et elle se penche, elle me dit, on va où en premier ? À Tamatave. Ah ! Alors, bon, bref, elle a continué à écouter son voisin, peut-être distraitement, hein, je ne sais pas. Elle avait peut-être d'autres pensées, mais c'est un fait que nous sommes arrivés à Tana, de Tana transporté directement le jour même à Tamatave. Et à Tamatave, nous arrivons chez les amis qui nous reçoivent. Ils ont déménagé, et dans leur nouvelle maison, qui est d'ailleurs superbe, il y a un bel écritoire, comme ça se fait à Madagascar, une belle planche gravée avec un verset biblique. Je ne connais pas le malgache, le malagas, mais en fait compte, j'ai quand même la possibilité de lire que c'est le psaume, Salma, et que c'est le psaume 91, verset 2. Les malgaches n'ont pas la même versification que nous. Et en fait, compte, c'est le verset que je viens de vous lire sur le fait qu'il nous délivrera de la peste. Merci, Seigneur. Le Seigneur sait tout ce que nous vivons. Il connaît nos projets. Il nous précède dans tout ce que nous vivons. Et nous avons vécu 2 mois à Madagascar avec des foyers de peste sans être pestiférés. Le Seigneur est bon et le Seigneur nous garde. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhodes. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quoi? Ben, Rose, en grec, c'est Rhodes. S'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre dans sa joie. Au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, à la porte d'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle !» Elle soutenait qu'il était bien ainsi. Eux disaient « C'est son ange !» Mettons-nous dans la situation. On est en pleine nuit, quelqu'un frappe à la porte. On va lui poser la question « Qui êtes-vous ?» Elle reconnaît la voix de Pierre. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'en fin de compte, elle repart dans sa joie. Elle va dire aux autres, mais c'est Pierre qui frappe à la porte. Mais en fin de compte, Pierre est toujours à la porte. Dans sa joie, elle oublie d'ouvrir à Pierre et court annoncer à l'Assemblée sa libération. Et là, quelque part, vous avez dit incrédulité tout à l'heure. Moi, je pense que effectivement, ce texte nous dit une chose, c'est que bien souvent, nous prions et que nous n'attendons pas que notre prière soit entendue et qu'il y ait un exaucement. Combien de fois dans mon ministère pastoral est-ce que j'ai posé la question aux gens qui me disaient « Mais Dieu n'a pas répondu à notre prière. » Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu ? Je ne sais plus. Vous avez jamais entendu ça ? Moi, je l'ai entendu. Combien de fois ? Combien de fois est-ce que j'ai dit que j'ai entendu aussi des gens qui disaient « Oh, on a mis une toison devant le Seigneur. » Et le Seigneur n'a pas répondu. Ah oui, quel toison est-ce que vous avez mis ? Je ne sais plus. On ne se souvient plus. On n'attend pas. Et là, c'est effectivement un problème que nous avons et que nous rencontrons. Maintenant, on peut s'étonner de la joie. Mais si vous lisez Luc 24-41, « Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Quand les apôtres, après la résurrection, rencontrent Jésus ressuscité, ils ont du mal. Ils ont du mal à appréhender ce phénomène qui est là. Ils, dans leur joie, ils sont dans la joie, mais ils ne rencontrent pas celui qui est là. Alors, en fait, compte, dans notre étude, il y a quand même un truc d'humour. Alors, le truc d'humour, c'est le suivant. Pierre, devant qui la porte de fer de la prison s'est ouverte miraculeusement, se trouve bloqué par la porte de l'église qui reste fermée. Et là, c'est quand même un problème. Et je voudrais juste choisir ce passage-là pour vous dire, vous savez tous que moi, je n'ai pas toujours été chrétien, que je suis devenu à l'âge de 27 ans, que nous étions mariés, que nous avions un enfant, notre fils aîné, est né. Il a été suivi après 4 ans par un autre. Mais pour le fils aîné, je vous ai dit, moi, ma famille, c'était des athées, des incroyants. Mais ma mère était quelqu'un de très religieux. Elle ne croyait pas en Dieu, mais on ne sait jamais. Et donc, quand le fils est né, qu'a-t-elle fait ? C'était de dire, il faut qu'il soit baptisé. Mais pourquoi être baptisé ? Puisque nous ne croyons pas. Je ne crois pas. Oui, mais on ne sait jamais. Et s'il y avait quelque chose, il faut le faire baptiser. Et en fin de compte, elle m'a tellement cassé les pieds qu'en fin de compte, j'en suis arrivé à dire à ma femme, est-ce que ton grand-oncle, qui est pasteur en Suisse, ne pourrait pas baptiser notre fils aîné ? Et lui a dit, et m'a renvoyé une lettre en me disant, Jean-Marie, le baptême, c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça. On le fait quand on est au sein d'une communauté. Donc, je vous propose, c'est d'aller d'abord à l'église. Alors, j'ai dit à ma femme, je suis quand même obéissant, moi, j'ai dit à ma femme, écoute, quelle est l'église protestante la plus proche de la maison ? Et donc, on est allé à l'église la plus proche. Je ne vous dirai pas où j'habite, comme ça vous ne pourrez pas savoir où se trouve cette église. Nous sommes arrivés dans cette église, il y avait une dizaine de personnes. Bon, on s'est assis, gentiment, avec la poussette à côté. On a, je ne sais pas si ma femme a écouté le culte, moi je regardais ma montre, et j'attendais que ça se passe. Quand le culte a été terminé, tout le monde s'est précipité sur le pasteur. Dans le porche d'entrée. Et nous, on était assis et restés assis gentiment à notre place. J'ai attendu, montre en main, 5 minutes. Et 5 minutes, c'est long, hein. C'est 300 secondes, ça va ? J'ai regardé l'heure, j'ai dit, OK, on s'en va. Et on s'est levé, on est arrivé dans le porche d'entrée, mais ce n'était pas possible de passer. Donc j'ai dit, excusez-moi, et je suis arrivé dehors. On est monté dans la voiture. Et j'ai dit à ma femme, si c'est ça les protestants, tu m'as vu une fois, tu ne me verras pas deux fois. Bon, c'était méconnaître la volonté de Dieu. Mais bref, faisons attention à notre accueil. Combien il est important, combien je suis heureux quand on me dit « Ah, c'est toi !» Bon, bref. Cependant, je vais essayer d'avancer pour terminer. Cependant, Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. En fait, dans le livre des Actes des Apôtres et dans même les les passages de la résurrection de Jésus. Il y a toujours de la stupéfaction dans les interventions de Dieu. Il ne suffit pas de prier, il faut demander à Dieu d'ouvrir nos yeux sur les exaucements de notre prière. Frères et sœurs, de la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla vers un autre lieu. En fait, annoncez-le un peu à la manière de Jésus avant l'ascension, car il y a une chose qui va se passer dans le livre des Actes des Apôtres, c'est que Pierre ne va plus réapparaître qu'une seule fois au synode de Jérusalem, mais on ne parle plus de Pierre. Et ça se termine un petit peu comme un départ. Pierre ne réapparaîtra plus. Donc, conclusion de l'histoire. À nous de nous laisser surprendre par le Seigneur. Il peut tout. Prions et prions aussi avec ferveur. Mais prions aussi pour voir, pour avoir les yeux ouverts sur les interventions de Dieu. Dieu n'intervient pas toujours avec des grandes choses. Mais Dieu intervient dans nos vies, bien souvent, en tout cas c'est dans ma vie à moi, c'est bien souvent par les petites choses. Mais prions pour pouvoir avoir les yeux ouverts sur ces interventions. Accueillons-nous les uns les autres et n'omettons pas d'accueillir. On peut faire vraiment des choses extraordinaires. Faisons attention à notre façon d'accueillir ceux et celles qui franchissent les portes de notre Église. Voilà un texte qui nous parle de libération, qui nous le remet dans un contexte, en fait, compte de la libération. Dieu a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Dieu nous a libérés de notre péché. C'est lui qui a offert sa vie pour payer le prix de notre désobéissance. Celui qui était sans péché est devenu péché. Il est monté sur la croix. Il a porté le poids de notre fardeau, de notre désobéissance, de notre péché, de nos transgressions. Il a payé le prix de notre réconciliation avec le Père. Si nous acceptons que nous sommes pécheurs, si nous acceptons que Jésus a payé le prix, si nous acceptons la grâce que Dieu nous fait, nous sommes réconciliés avec le Père qui fait de nous des enfants de Dieu. En nous, il dépose les arts de l'Esprit. Nous vivons par lui et nous vivons de cette présence à nos côtés et en nous, constamment. Frères et sœurs, ce texte ne nous parle pas seulement que de la libération de Pierre, mais de notre libération aussi par rapport à toutes les servitudes que nous avons endossées et que nous endossons encore aujourd'hui. Dieu nous libère. Je termine. J'ai toujours prêché. Dieu sauve, Dieu libère et Dieu nous guérit. Aujourd'hui, c'est encore une réalité. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te louons de tes interventions. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous rejoins. Dans tout ce que nous vivons, C'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous éclaire. Prions vraiment pour que, Seigneur, nous ayons ce rapport à la prière et que nous puissions, par la prière et à l'aide de l'Esprit Saint, pouvoir discerner ta volonté dans nos vies, Seigneur. Nous désirons vraiment être libres, libres de toutes nos chaînes. Nous désirons vraiment, Seigneur, être guéris de toutes nos maladies. Seigneur, aide-nous à être une église qui continue à avancer, et qui proclame encore que aujourd'hui, dans ce monde qui se perd, tu es celui qui vient avec puissance, tu es celui qui nous appelle à entrer dans le royaume. Seigneur, merci de ce que le témoignage du Saint-Esprit nous dit encore, que nous sommes enfants de Dieu et qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Alléluia. Amen.